La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des femmes et des hommes qui entreprennent et qui dirigent leur entreprise dans cette période incertaine. Et on le voit, chaque jour, la crise crée des opportunités. On se lance, on ose et c'est ça, la France qui bouge. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Alors on a eu le temps, semble-t-il, de faire le tour de nos intérieurs, comme on dit pendant ce confinement. Et ça nous a donné des idées. Du coup, on change en ce moment nos meubles à tour de bras. L'ameublement, un secteur qui bouge et qui a le sourire. Notre invité aujourd'hui, le PDG de Roche-Beaubois, Guillaume Demulier. Il est avec nous jusqu'à 14h.
À la une, en effet, Emmanuel, l'ameublement, un secteur qui s'est effondré pendant le confinement et qui retrouve petit à petit des couleurs, notamment grâce à du mobilier de seconde main. La fondatrice de Selency sera parmi nous dans quelques minutes.
Acheter des meubles, c'est bien. Acheter français, c'est encore mieux. C'est important à l'heure où d'autres choisissent de délocaliser. Le groupe Gautier, qui existe depuis 60 ans, continue de se développer partout en France grâce à une famille de passionnés. On les découvrira à 13h30. Ce sera la saga de la France bouge.
Et vous l'attendez chaque jour, les trophées Europe 1. Nous avons retenu aujourd'hui la start-up Colette, faciliter la cohabitation entre les générations. Le pitch à 13h50.
Et enfin, démission, demain au travail. Vous êtes commercial, là peut-être à la maison ou dans votre voiture. Et désormais, vous êtes en télétravail, plus le droit de passer au bureau. Comment s'adapter? On a trouvé une entreprise qui a la solution et on lui passera bien évidemment un coup de fil en toute fin d'émission.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
La France bouge, ce sont donc toutes ces entreprises, petites et grandes, mais aussi ces associations qui innovent, préparent le monde de demain dès aujourd'hui. Chaque jour, elles sont au bon endroit, à la une sur Europe 1. Alors c'est peut-être votre cas, beaucoup de Français ont changé leurs meubles depuis le confinement.
Alors on va en parler avec vous, Guillaume Demulier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Roche-Beaubois. Roche-Beaubois, ce sont 255 magasins partout dans le monde. Ça existe depuis 1950. On va parler meubles. Mais tout d'abord, notre reporter Charlotte Barrican est allée promener son micro dans les rues de Paris avec cette question. Qu'avez-vous envie de changer dans votre maison depuis le confinement? On l'écoute et on commente après.
Post-confinement, est-ce que vous avez eu envie de réaménager votre maison?
Alors moi, le confinement, ça m'a donné envie de, pas forcément de changer de meubles ou d'ambiance chez moi, mais surtout de me projeter plus tard dans mon futur appartement.
On vit dans une coloc où il y a assez peu de lumière, donc on s'est dit qu'on allait acquérir plusieurs lampes.
Moi, je sais que je venais juste d'emménager dans un nouvel appartement, tout neuf, tout blanc. Donc à la sortie, j'avais qu'une envie, qu'une hâte, c'est de mettre quelque chose sur les murs et de remplir un petit peu cet appartement.
Alors Guillaume Demulier, PDG de Roche-Beaubois, notre patron du jour, on l'entend avec les paroles de ces personnes recueillies par Charlotte Barrican. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué un changement particulier post-confinement dans notre rapport à la maison, dans changer nos meubles, de canapés, de tables?
Ben, écoutez, oui, c'est très marquant nos remontées de terrain, nos remontées de magasins. Ça ressemble vraiment à ce qu'on entend là. C'est-à-dire des clients depuis le déconfinement qui sont très qualifiés, qui viennent avec l'intention d'acheter. Ils savent, ils ont étudié, ils ont pensé, ils ont eu du temps chez eux et ils sont prêts à acheter. Et il y a des effets évidemment sur nos volumes. Hein. Roche-Beaubois va très bien. On a eu un mois de juin, un rebond extraordinaire. On était à plus 125% en France par rapport à juin l'année précédente. Donc un rebond extraordinaire et qui s'est continué sur l'été. Donc c'est très net.
Est-ce que ce sont des mois tout simplement historiques? Est-ce qu'on peut dire que là, au mois de juin, Roche-Beaubois n'avait jamais autant vendu de sa vie?
Sans problème, c'est le plus gros mois de juin de l'histoire de Roche-Beaubois, effectivement.
Alors quand vous dites que c'est un mois record, hein, plus 125% en France, ils achètent quoi?
Alors, ils achètent toutes les catégories de produits. Il n'y a pas forcément eu des catégories qui... Alors nous, on reste évidemment un acteur fort sur le salon, sur la salle à manger, sur la chambre. Donc, ils achètent de tout. Il n'y a pas des catégories de produits qui ressortent. Mais on vend des canapés, on vend des tables basses, on vend des tables de repas, on vend des lits. Ça bouge et nos clients viennent pour acheter.
Ça bouge. Est-ce que ça veut dire aussi qu'ils s'équipent pour le télétravail? Est-ce qu'ils viennent chercher chez vous une chaise plus confortable, un tout petit bureau à mettre quelque part? Ou ça ne se voit pas encore?
Ça existe, mais je ne peux pas dire que ça soit significatif. On vend vraiment de tout.
Alors, vous vendez tout, les clients viennent avec cette intention d'acheter. Quel est le profil de vos clients ? Ce sont plutôt des jeunes, des personnes bien installées, des seniors ?
Alors, nous, on est clairement sur un marché de renouvellement, puisque on vend quasiment l'ensemble de nos meubles à la commande, avec une forte dimension de personnalisation, c'est-à-dire qu'on fait les meubles pour nos clients, avec un délai de 2-3 mois. Donc, c'est plutôt un marché de renouvellement plutôt qu'un marché de jeune habitat. Mmh. Donc, la moyenne d'âge de nos clients français, c'est difficile, tout existe, hein, mais on serait peut-être autour de 40-45 ans.
Mmh. Pourtant, vous êtes une marque haut de gamme, hein, on va le dire, c'est très cher chez Roche-Beaubois. Vous avez beaucoup de clients étrangers qui vivent en France, mais qui viennent chez vous. Vous marchez très bien avec les hôtels également.
C'est vrai.
Donc là, si vous faites plus 125%, c'est un chiffre impressionnant, c'est que vraiment, les Français viennent compenser tous ces autres clients ?
Alors, compenser, oui, c'est sûr. On a moins d'étrangers momentanément, forcément. On en a dans nos magasins à l'international, mais moins dans nos magasins français. Les projets de B2B, ils existent, ils continuent à se développer.
Avec les hôtels
mais
ou les restaurants.
Un peu ralentis. On a effectivement fait plusieurs hôtels. Il y en a un qui vient là d'ouvrir à Paris, qui est un hôtel sur lequel on travaillait depuis le début de l'année. Donc, c'est pas arrêté, mais c'est ralenti, c'est vrai. Mais oui, c'est plus que compensé et très largement compensé par la clientèle française qui est plus présente et plus qualifiée dans nos magasins.
Alors, est-ce que cela signifie que vous avez baissé les prix ? Vous avez cassé les prix ?
Pas du tout.
Rien ?
Pas du tout. On croit dans la qualité de nos mobiliers, de ce que l'on vend.
Vous faites de qualité et baissez un petit peu.
Non. On a une marge qui est totalement stable. Il y a juste une opération commerciale qui se fait normalement en mars, qui a été interrompue par la fermeture des commerces, qui a été repoussée sur le mois de juin. On l'a terminée en juin, mais c'est peu significatif. Ça reste un moyen d'attirer des clients en magasin. Mais notre niveau de marge, il est tout à fait stable par rapport aux années précédentes.
Est-ce que vous avez été vous-même totalement impressionné par ce rebond ? C'est-à-dire que quand vous avez vraiment rouvert les boutiques, vous vous disiez, allez, ça va peut-être repartir timidement, on fait attention. Est-ce que vous avez vous-même, comme chef d'entreprise, été complètement surpris par cette vague d'achat ?
Alors oui, on avait un indice quand même, c'est les premiers magasins à rouvrir en Europe, nos premiers magasins à rouvrir, c'était l'Allemagne qui a rouvert à la fin avril. Et on s'attendait effectivement à un redémarrage extrêmement lent et on avait mis peu de vendeurs dans nos magasins. Dès le deuxième jour, on a rappelé tout le monde. En France, pareil, on a commencé le jour du déconfinement, le 11 mai, avec par magasin un directeur, un vendeur. Le mercredi, on rappelait tout le monde.
Mmh. Guillaume Demulier, vous allez rester avec nous. Vous êtes le PDG de Roche-Beaubois.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, on meuble la maison aujourd'hui avec Elisabeth dans cette France bouge sur Europe 1. Nous sommes avec notre patron du jour, Guillaume Demulier, le patron de Roche-Beaubois. Ça bouge, hein, on l'a compris, pour les meubles neufs. On nous a même parlé d'un mois de juin historique et d'une tendance qui se poursuit. Juste une petite question. Du coup, vous avez rattrapé tout votre retard, Guillaume Demulier ?
Sur la France, oui.
Sur la France, oui.
Quasiment.
C'est-à-dire que vous êtes là, au moment où on se parle, quasiment étal par rapport à 2019, qui était déjà, je crois, une très bonne année.
Qui était une année record.
Bon, et bien alors tout va bien. Donc ça marche pour le neuf. On va voir ce que ça donne maintenant pour les meubles de seconde main. Là aussi, ce marché gagne du terrain avec un chiffre d'affaires, hein, 15% des Français qui ont acheté un meuble d'occasion l'année dernière.
Et on va voir ça avec vous, Charlotte Cadet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Selency. Vous avez créé Selency en 2014. Au départ, pour ceux peut-être que ça va parler à nos auditeurs, c'était Brocante Lab. Ça s'est transformé ensuite en Selency. Vous proposez un site qui sélectionne de très belles pièces, comme si on allait faire une brocante, sauf que c'est en ligne. C'est ce qui vous différencie avec un Bon Coin, par exemple ?
Oui, complètement. Je pense que notre gros axe de différenciation, c'est vraiment la sélection et la qualité du coup des pièces que l'on propose et du service qui va avec. De l'inspiration jusqu'à la livraison, on est capable d'apporter une vraie valeur ajoutée à nos utilisateurs. Et je pense que clairement, c'est ce qui nous différencie des petites annonces.
Et vous êtes totalement dans les enjeux du moment. On le voit, le meuble, on en a aujourd'hui, semble-t-il, beaucoup besoin. Ça marche aussi chez vous ? Vous voyez, moins record aussi chez vous, historique du jamais vu ?
Je crois qu'on est aussi sur les mêmes créneaux, hein, clairement sur des des mois historiques depuis, depuis le confinement, on n'a pas attendu le rebond puisqu'on n'était pas, on est déjà accessible depuis
C'est-à-dire
le confinement.
Pendant le confinement,
on a déjà perçu effectivement une très forte croissance trois semaines après le démarrage du confinement. Et là, on est effectivement sur des mois records depuis le printemps.
C'est-à-dire mois records.
On a dépassé, nous, largement les 2 millions d'euros de ventes mensuelles. Ouais. Donc, on est sur un très beau trend avec plus de 120-130% de croissance aussi year on year. Donc, par rapport à l'année dernière. Donc, ouais, c'est des très beaux chiffres.
Et là aussi, c'est sur des choses que vous n'aviez pas du tout imaginées parce que qu'un site comme vous soit en croissance très forte, on vous le souhaite hein, pour perdurer. On est sur des choses que vous n'aviez pas du tout imaginées dans votre business plan, comme on dit.
Non, effectivement, je pense que le business plan a été un peu mis de côté au départ du confinement en se disant on va voir ce qui va se passer, on ne sait pas. On a pris le sujet avec beaucoup d'humilité et on s'est demandé... On s'est dit on va attendre que les semaines passent. Effectivement, on a été très surpris de voir que ça a repris très vite, que les Français ont repris vite confiance, au moins dans le digital, et se sont effectivement très vite réapproprié le site et leur déco.
Donc un mois record, vous avez pu vous réapprovisionner parce qu'il faut aussi pouvoir proposer des produits. Comment vous faites ?
En fait, l'avantage, c'est que les Français ont aussi passé beaucoup de temps chez eux. Donc, c'est un mois record à la fois sur la partie... Ça a été des mois records, en tout cas, à la fois sur la partie achat, mais aussi sur la partie vente. Puisque les Français étaient chez eux, ont fait du tri, se sont dit... Tiens, si je vendais mon canapé, mon fauteuil, etc., pour ensuite en acheter un nouveau. Et donc, ils ont listé aussi beaucoup plus de produits sur le site, ce qui ont fait que notre approvisionnement a été aussi...
Automatique. Quasiment.
Automatique, ouais.
Alors pour être très honnête, moi je ne connaissais pas Celonsi avant qu'on prépare cette émission avec Elisabeth, donc je suis allé chiner sur votre site ce matin. C'est très différent quand même que d'aller dans une brocante. Quels sont les usages et qu'est-ce qui marche le mieux sur des sites comme vous ?
En fait, effectivement, on voit qu'on n'a pas exactement la même clientèle que celle qui fréquente les brocantes, bien qu'aujourd'hui, les Français sont quand même très fans de brocantes, etc. Mais il y a ce côté qualitatif, le côté très frais, très moderne de la brocante que l'on apporte et que l'on insuffle chez Celonsi. Donc, ce qu'on voit dans les usages, c'est des gens qui sont très sensibles aux enjeux écologiques, environnementaux et qui achètent pour ces raisons-là, qui ont envie d'avoir des pièces uniques, des pièces de caractère dans leur déco, qui ont envie en fait d'authenticité qui n'ont pas forcément le temps en fait de fréquenter effectivement les brocantes, de faire le tour des vide-greniers ou des sites de petites annonces. Donc voilà, ce qu'on apporte effectivement, c'est ce côté dépoussiéré et moderne de la brocante, et je crois que ça matche effectivement avec les enjeux de nos clients.
Et bien on l'entend, hein. Guillaume Demulier, PDG de Roche-Beaubois, quel regard portez-vous sur cet univers des meubles de seconde main ? Est-ce que aussi chez Roche-Beaubois on peut envisager de se développer avec ce créneau-là ?
Ben écoutez, on le regarde avec intérêt.
Ah.
Il y a clairement un effet de développement sur ce sujet. Aujourd'hui, ce n'est pas notre métier. On disait tout à l'heure, nous, on fabrique à la demande. On a peu de stock, on n'a pas la même gestion, puis c'est pas le même métier. On parlait tout à l'heure avec Charlotte, il y a plein de choses en commun.
Hors
antenne, oui. il y a plein de choses en commun, il y a probablement des clients communs, mais c'est un métier très différent. Donc...
Mais quand on a une marque iconique comme Roche-Beaubois, c'est-à-dire que ça fait partie de ces marques où beaucoup de gens se disent, tiens, un jour si j'ai de l'argent, j'irai chez Roche-Beaubois. Je pense que le marché de la seconde main chez vous, est assez extraordinaire là-dessus, parce qu'il y a des gens qui n'auraient jamais l'occasion de pouvoir l'acheter en première main.
Ça va avoir un vrai sens.
C'est vrai, absolument.
Et du coup, vous, quand vous dites on y réfléchit, c'est-à-dire que vous pensez le faire tout seul sur un site internet à vous, ou par exemple vous associez à des plateformes comme Celonsi. Je vous vois sourire, là, nos auditeurs ne vont sûrement pas tout savoir.
Ils ont fait un deal avant l'antenne et on n'est pas au courant.
Vous avez plein de choses à nous dire, mais vous ne voulez pas nous le dire parce que vos actionnaires ne sont pas encore au courant.
Non, mais on travaille effectivement sur la durabilité de nos produits, on travaille sur le fait de réduire nos impacts environnementaux. On travaille sur l'éco-conception. Enfin, c'est des sujets qui nous touchent beaucoup et qui sont importants pour la marque et pour nos clients. Après, encore une fois, on a un métier, on essaye de bien le faire. C'est un métier différent.
Mais vous allez peut-être vous diversifier, c'est ce que vous
nous
dites.
Mais on pourrait imaginer un jour de se diversifier. Pour être très honnête, aujourd'hui, on a peu de demandes de nos clients sur ce sujet. Peut-être parce qu'ils sont déjà chez Celonsi.
Il y aura peut-être des choses à faire, peut-être des ponts à voir.
Ou peut-être
en tout cas
qu'il n'y a pas exacte simultanéité entre l'achat et la revente.
Charlotte Cadet, est-ce que vous vous retrouvez avec des meubles d'hôtels ou de restaurants ? Est-ce qu'il y a un effet post-Covid aussi là-dessus dans ce que vous proposez ? Parce que malheureusement, il y a des endroits qui ferment en ce moment aussi.
Oui, alors effectivement, on n'arrive pas encore à déceler exactement les produits issus des hôtels ou parce qu'ils sont identifiés aujourd'hui comme des particuliers, comme des vendeurs particuliers. Mmh. En revanche, je pense qu'il va y avoir un effet d'ici la fin de l'année, effectivement, et il y a sans doute des deals et du business à faire pour accompagner justement ces hôtels et restaurateurs.
Ouais, ou peut-être qu'ils vont se renouveler, tout simplement.
Exactement.
Qui vont profiter
en tout
de l'occasion.
Cas, on a senti un vrai effet rentrée aussi, où on a également accompagner des hôtels dans l'aménagement et la déco de leurs espaces pour apporter cette authenticité, ce charme et relancer une nouvelle dynamique de rentrée. Voilà.
Et bien on continue avec cette dynamique. Merci à vous Charlotte Cadet, la fondatrice du site internet Selency.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Vous êtes sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 14h dans La France Bouge avec Guillaume Demulier, le PDG de Roche-Beaubois. On parle donc de nos meubles aujourd'hui dans La France Bouge. On va regarder, tiens, où vos meubles sont produits, parce qu'une marque si française, on a découvert avec Elisabeth quand on a préparé l'émission, 75 à 80% de la production est en Italie. Pourquoi donc ?
Alors, on produit déjà 100% en Europe. On a des fournisseurs qui sont des ateliers avec lesquels on a des partenariats qui durent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est des partenariats très forts, c'est des gens qu'on connaît extrêmement bien et qui chacun ont un savoir-faire. Donc on produit en Italie, c'est plutôt 70 que 80%. On a de la production aussi en France, on a de la production au Portugal, on a un peu d'Angleterre. Donc on va chercher des savoir-faire sur des territoires où il y a une tradition. Et c'est ça qui permet aussi la grande diversité de la gamme Roche-Beaubois.
Pas possible de produire en France pour le moment, mais ça, on va y revenir dans un instant. Comment vous avez réussi à faire face à l'énorme demande que vous avez eue ? Vous nous avez parlé d'un mois record. L'Italie a été très touchée, la production s'est arrêtée. Le Portugal peut-être un petit peu moins, mais quand même. Comment vous avez fait pour réussir à livrer ?
Ben, y a deux choses. C'est qu'il y a eu un effet aussi de réduction de nos commandes en avril et mai. Donc voilà.
Et mais là, pour faire face à la demande.
Et la deuxième chose, ben, on a demandé effectivement à nos partenaires de mettre les bouchées doubles. Et ils ont accepté, par exemple, de réduire leur temps de vacances. En Italie, traditionnellement, il est d'usage de fermer 4 semaines. Ben, là, beaucoup ont fermé 1 semaine, 2 semaines. Et donc, ils ont joué le jeu. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'être à jour de nos livraisons pour nos clients.
Et pourtant, acheter français, ça fait partie aujourd'hui des envies de chacun. Je vous propose d'écouter la suite des paroles de français qu'a recueillies Charlotte Barrican. Écoutez.
Chez moi, il y a une pièce que j'affectionne énormément, c'est la table du salon que mon père a trouvée en galerie française.
J'aimerais me meubler français, mais c'est quelque chose que je ne fais pas, peut-être par manque de connaissances et aussi peut-être par manque de moyens.
Moi, je suis meublée en français, sauf une table basse qui est chinoise.
J'aimerais bien l'avenir, quand j'aurai un salaire et que je serai autre chose qu'un étudiant, de pouvoir acheter français, oui.
Oui, ça vous fait sourire, on l'entend, Guillaume Demulier, le jeune homme qui vient de parler. J'attends d'avoir un salaire parce que ça coûte cher d'acheter français. Qu'est-ce qui vous en empêche, vous, de ne pas faire du 100% français ou juste une partie au moins ?
Alors, c'est une partie déjà. On a une partie non négligeable de la production, 15 à 20% qui est faite en France. Donc, ça existe.
C'est quoi comme partie ?
Alors, on produit par exemple des tables en bois massif. La partie chêne, elle est faite en France. On a aussi des meubles. On a un produit très innovant qui s'appelle le deck acryle, qui est produit en France. Donc, on a de la production en France. On n'a pas tous les savoir-faire en France, tout simplement.
Alors, il faut donc quand même. Donc, c'est pas une question d'argent, c'est une question de savoir-faire.
C'est avant tout une question de savoir-faire et aussi de capacité de production. On a eu peut-être, il y a 30 ans, 40 ans dans l'histoire de la marque, peut-être une part de production en France qui est plus forte, mais un certain nombre aussi d'usines ou de fabricants ont disparu parce qu'on n'était pas leur seul client. Nous, on s'est développé, mais d'autres peut-être ne sont pas développés et donc on doit aller chercher les savoir-faire là où ils sont. Mais on reste très attaché au Made in Europe. Et la deuxième chose aussi, c'est que la conception, le dessin, l'édition des modèles, il est fait par Roche-Beaubois et il est fait en France. Donc ce sont des meubles français et Roche-Beaubois est une marque française.
Alors, on ne le sait pas toujours, vous avez une autre marque au sein du groupe qui s'appelle Cuir Center, là, une marque qu'on trouve plutôt en province, le spécialiste bien évidemment du cuir comme son nom l'indique. Est-ce que là aussi, vous êtes sur des chiffres de vente totalement historiques, hein ?
Oui. Absolument. Le mois de juin a été aussi historique. L'été s'est poursuivi très bien. On était au-delà de x2 au mois de juin, par exemple. Ouais. Ça se passe très bien également chez Cure Center. Et là aussi, les clients viennent dans nos magasins avec une envie très forte d'acheter.
Alors, ça va être quoi la suite? Que vous manque-t-il aujourd'hui pour relocaliser en France toute la production? Parce qu'on l'a compris, les savoir-faire, on ne les a pas tous quand on vous entend, mais que vous manque-t-il?
C'est pas si simple. Déjà, on travaille, comme on disait tout à l'heure, avec des partenaires de long terme. Mmh. Il n'y a pas... un partenaire qui... alors, on a quelques nouveaux fournisseurs qu'on fait régulièrement entrer, mais la plupart de nos partenaires, c'est des partenaires depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce qu'on travaille avec eux à toutes les étapes, dans le développement, dans la mise au point, dans le prototypage, dans le suivi de la qualité. C'est pas simple de faire rentrer quelqu'un de nouveau, et on a besoin d'une certaine capacité de production. On est dans 55 pays, on a des volumes qui sont relativement importants, on a besoin de trouver les bons partenaires et en savoir-faire et en volume. Et on n'est pas sûr de pouvoir les trouver aujourd'hui en France, hélas.
Beaucoup d'acteurs du meuble sont en grande difficulté malgré tout en France. Alinéa vient d'être repris avec un énorme plan social. Conforama a été racheté par But, c'est fini pour Fly. Pourquoi vous, ça marche et pas eux? C'est parce que vous êtes sur le très haut de gamme avec une marque et une spécificité?
Peut-être, mais aussi parce qu'on est très innovant. On travaille avec 50 designers. On a une gamme extrêmement étendue. On a une créativité de la marque qui est extraordinaire. Donc, on a une attractivité, je pense, de la marque qui est particulière. On travaille aussi sur la formation de nos vendeurs, sur le rapport à la marque est très fort chez tous les acteurs, que ce soit les partenaires, les salariés, l'ensemble des magasins. Il y a un lien très très fort avec la marque, et ça se ressent avec les clients. Il y a vraiment un acte d'achat, il y a une expérience Roche-Beaubois qui est très forte et qui est peut-être pas la même.
Alors,
je
ne
veux pas dire demain, mais chez des gens qui sont peut-être un petit peu plus standards ou qui font des choses un petit peu plus standards et moins créatives.
Alors Guillaume Demulier, vous connaissez sûrement les meubles Gautier.
Bien sûr.
Parce qu'acheter un meuble, c'est aussi acheter un savoir-faire. Hein, vous étiez en train d'en parler. Eh bien, il y a 60 ans, naissaient les meubles Gautier en Vendée. Et justement, nous allons rejoindre la Vendée avec vous, David Soulard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct depuis votre bureau en Vendée. Vous êtes le directeur général des meubles Gautier. Alors Gautier, c'est d'abord une histoire familiale avec 5 personnes. Patrice Gautier, votre oncle qui était ébéniste.
Oui, c'est vrai. Patrice était ici sur le site du Boupère avec même son père, Noé, et qui, donc avec mon père, Dominique Soulard, il y a donc 60 ans, a créé un atelier pour commencer à vendre des meubles en Bretagne.
Alors ça, c'était il y a 60 ans, vous avez fabriqué des lits, vous avez commencé à embaucher. Et il faut se remettre dans le contexte, on était dans une époque où on passait gentiment du monde agricole au monde industriel. D'ailleurs, vous aviez même pris un ouvrier agricole, hein, on n'avait pas vu ça d'un très très bon œil en Vendée. Et votre audace à l'époque, eh bien, c'est que très rapidement, vous vous êtes centré sur les chambres pour enfants.
Oui, c'est vrai que à l'époque, mon oncle et mon père ont considéré que pourquoi les enfants n'avaient pas une chambre dans laquelle ils puissent avoir de la couleur, dans laquelle ils puissent avoir un petit peu plus de fun et de l'expression d'avoir un petit territoire à eux. Et c'est vrai qu'on dormait souvent dans les meubles de sa grand-mère et que la chambre de jeunes avait un potentiel énorme. Et Gautier, on va dire, c'est une référence mondiale qui est devenu mondial parce qu'on a fait beaucoup de salons internationaux pour faire connaître la marque et la référence. Quand on dit Gautier aujourd'hui, ça reste encore Gautier. J'ai dormi quand j'étais petit dans un meuble Gautier.
Mais voilà. Qu'est-ce qui reste de cette référence? Comment vous arriveriez à la décrire, cette référence Gautier? Qu'est-ce qui fait votre force?
Notre force, c'est qu'on est des ébénistes industriels, finalement. C'est qu'on arrive à transformer des idées sur des technologies que nous avons ici dans les usines pour pouvoir rester made in France. Et je dirais que c'est aussi au niveau du monde de l'enfant, parce qu'il y a quand même une compétition dans sa dépense avec l'enfant qui se digitalise. Et donc, en fait, il faut être de plus en plus innovant pour donner envie. Et je pense que l'ADN de Gautier, elle s'est fait parce que beaucoup de nos clients aujourd'hui reviennent en magasin en disant « J'ai dormi en 1970, 75, 80 dans
avec
une
vous.
Chambre Gautier. »
Il y a une histoire avec vous. Pourtant, ça n'a pas été simple. Hein. Vous avez eu 3 vies chez Gautier. En 1983, vous avez été racheté par un fonds industriel. Il y a eu énormément de manœuvres financières parce que vous avez été dépouillé de vos résultats pour combler les pertes d'autres entreprises du fonds. Vous avez perdu Gautier. Et un clash 1999 avec votre père qui a été remercié. Et là, il y a eu un truc extraordinaire, c'est que tout le monde s'est mobilisé pour qu'il revienne.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle chez nous encore 20 ans après les événements de 99 où mon père a finalement généré une grève ici de tous nos salariés parce qu'on habite dans notre territoire, on habite ici à côté des usines et il voulait absolument avoir le défenseur des emplois qui reste dans l'entreprise. Et ça s'est traduit par un deal avec l'ancien propriétaire où il a jamais cru qu'on trouverait l'argent pour acheter l'entreprise qui était à l'époque cotée en bourse, qui valait 128 millions d'euros et nous on avait 100 000 euros sur un compte. Et on y a été, voilà, on a voulu racheter notre sang et au prix du sang. Hein. Et finalement, c'est génial puisque maintenant, je travaille avec mes quatre frères et sœurs. On est quatre et puis mon père est toujours à mon côté. Donc, c'est vrai que c'est une belle saga hein, d'une entreprise qui s'est rachetée.
Voilà. Et je crois qu'encore aujourd'hui, vous en êtes à rembourser le prêt que vous aviez fait à l'époque. 20 ans plus tard, Gauthier a beau bien fonctionner, vous êtes encore là à payer.
Oui, bah oui, parce que on a aussi investi dans les hommes et dans les machines. Donc c'est clair qu'à aujourd'hui, on peut pas non plus rémunérer que le rachat d'une entreprise, hein, ce qui paraît être équilibré et normal, puisqu'il fallait pas nous-mêmes qu'on devienne finalement des gens qui refaisaient le passé. Je veux dire, donc l'usine s'est modernisée, on a fait de nombreux investissements parce que le Made in France, oui, ça existe. Mais il faut rester très compétitif quand même.
Vous restez compétitif. On voit que l'esprit de famille aussi, c'est l'esprit de famille qui a débordé en fait sur vos salariés, hein, puisqu'ils se sont battus pour que vous puissiez garder l'entreprise. Vous aussi, vous avez fait un excellent mois de juin.
Oui, c'est vrai que on a fait un très bon mois de juin, comme le disait Guillaume, chez Roche-Bobois, ils ont fait plus de 100%, nous on a fait 60%, mais finalement, ce qui est surtout important, c'est qu'on en attendait moins 50. Donc c'est vrai que quand on essayait de projeter ce qu'on allait faire au mois de juin, tout le monde s'attendait à la moitié du chiffre et on a tous vécu cet engouement. Alors nous, il est d'autant plus fort, je pense, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui nous parlent de l'origine produit. Que je pense qu'il y a un vrai changement d'attitude par rapport au Made in France.
Guillaume Demulier, patron de Roche-Beaubois, la chambre d'enfants, c'est aussi un aspect important pour vous. Ça pourrait le devenir. Ça vous intéresse?
C'est quelque chose qu'on fait. On a des chambres d'enfants dans la gamme. Aujourd'hui, c'est effectivement relativement limité dans nos ventes.
En tout cas, c'est une France qui va bien hein, avec vous, David Soulard, directeur général de Meubles Gauthier. Merci d'être venu nous raconter avec tant de passion la saga de votre entreprise.
Et Guillaume Demulier, le patron de Roche-Beaubois, vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
13h45 et c'est parti pour les trophées Europe 1. Ils osent, ils se lancent chaque jour. Ils sont devant vous sur Europe 1 et devant aujourd'hui notre grand patron du jour, Guillaume Demulier, le PDG de Roche-Beaubois. On va écouter tout cela d'un œil attentif et toujours avec une oreille très exigeante.
Et avec vous, Justine Renaudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de la start-up Colette. Colette est très récente hein, puisqu'elle est née en décembre dernier, en décembre 2019. L'objectif, c'est de réinventer et de démocratiser, c'est vous qui le dites, hein, la cohabitation intergénérationnelle. Une personne âgée qui a une chambre libre chez elle, elle peut la louer à des étudiants. Vous allez tout nous détailler comment vous est venue l'idée. Vous savez comment ça marche ?
C'est parti.
C'est parti pour le pitch.
Alors Colette, on est en effet une plateforme en ligne de cohabitation intergénérationnelle. On aide les jeunes actifs et les étudiants de moins de 30 ans à emménager chez des seniors de plus de 60 ans qui ont en effet une chambre libre à rentabiliser chez eux à la maison. Donc pour faire le lien avec votre thématique précédente sur l'ameublement, nous ce qu'on aime à dire chez Colette, c'est qu'on met ensemble des jeunes et des moins jeunes dans des cohabitations où il y a moins de Ikea et plus de Formica. Voilà. Du côté des jeunes, donc, c'est vraiment hyper simple d'avoir accès au logement. On s'occupe de tout pour eux, hein. Il n'y a pas de caution à déposer, pas de dossier à faire. Pas de danse du ventre à faire devant les propriétaires non plus pour obtenir un logement. Tous nos logements sont éligibles également aux APL. Donc voilà, et le plus important, ça reste le prix qui est très avantageux. En moyenne, 400 à 500 euros à Paris, là où un studio classique coûte 885 euros par mois pour 12 mètres carrés. Voilà, et du côté des seniors, l'avantage, c'est vraiment la possibilité de rentabiliser donc, des chambres inoccupées, souvent laissées vides parce que les enfants ont quitté le cocon, et aussi et surtout la possibilité d'avoir une présence à la maison et de briser un peu cette solitude que malheureusement beaucoup de seniors aujourd'hui vivent. Voilà.
Eh ben ça va. Hein, on a, vous
c'était
êtes allé,
super, même,
c'était très très bien. Non,
je
non, c'était très bien.
Votre
non. Mais parce que on est allé en dessous de la minute 30. Donc bravo en tout cas à vous, Justine Renaudet. Je me tourne tout de suite vers Guillaume Demulier, qui est notre patron du jour, PDG de Roche Bobois, qui va vous poser sa première question.
Écoutez, pourquoi Colette?
Ah, excellente question. Alors Colette, en fait, c'est vraiment un prénom sur lequel on est tous tombés d'accord dans l'équipe. Il faut savoir qu'en France, déjà, la moyenne d'âge des Colettes est 71 ans. Donc c'est vraiment typiquement le prénom le plus représentatif pour notre cible, en fait, d'hôte. Sachant qu'effectivement, sur Colette, on a, je dirais, entre 80 et 90% de femmes. La plupart sont divorcées ou veuves, ou on a aussi des couples, en effet, dont les enfants, encore une fois, ont quitté la maison.
Comment est née cette idée? Parce que ça, vous ne le racontez pas, et souvent, c'est quand même comme ça qu'un bon business naît. Je crois que c'est un de vos cofondateurs qui a vécu ça. Ses parents étaient divorcés, il retournait à Bruxelles ou quelque chose comme ça. Il s'est rendu compte qu'il y avait de la place dans la maison.
Exactement.
Et il s'est dit, c'est idiot.
Ouais,
c'est comme ça que l'idée naît.
Voilà, Mathieu, donc le cofondateur aussi de Colette, a passé du temps dans sa famille en retournant dans sa ville natale de Bruxelles. Et ses parents étant divorcés, en effet, il s'est rendu compte qu'il y avait des chambres libres et qu'il fallait absolument occuper. Pour ma part, c'était un constat aussi personnel. J'avais une voisine de palier qui vivait seule et qui parlait à son poste de radio toute la journée.
Ça j'espère a été qu'elle écoute un repas.
Écoutez, j'espère.
Si
mais
elle
en tout
est
cas,
là, vous écoutez, on
voilà,
la salue.
Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ça a été un choc. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a vraiment un problème de solitude et d'isolement des seniors. Et ça a fait tilt. Et voilà, en tout cas pour ma part.
Guillaume Demulier, en tant que patron, est-ce que vous pensez que c'est un projet qui est viable et qui tient la route?
Écoutez, moi, je trouve ça magnifique d'un point de vue humain, d'un point de vue économique. Je trouve ça effectivement fantastique. Et évidemment, on le voit tous les jours, la difficulté du logement et évidemment la solitude des personnes âgées. Donc, c'est absolument fantastique. J'ai une autre curiosité, évidemment, peut-être indépendamment du modèle, mais de savoir comment Colette se rémunère et quel est pour vous le business model.
Oui. Alors nous, Colette, on prélève des frais de service à hauteur de 15% des loyers qui sont perçus mensuellement. Tout ça vient en fait assurer la qualité de notre service parce que ce que je n'ai pas précisé pendant le pitch, c'est qu'on apporte, on propose un service clé en main. On gère absolument tout l'administratif. On qualifie chaque profil de jeune, mais aussi d'autres.
C'est vous qui faites également le loyer, les déclarations de loyer.
Exactement.
Et tout ça.
Exactement. On fait absolument tout. On apporte aussi pour l'hôte la garantie loyer impayé qui est comprise dans ces 15%. Donc, même si le jeune est en retard de paiement, l'autre sera payé.
Ce qui vous manque aujourd'hui, c'est principalement des étudiants pour venir remplir les chambres ou l'inverse? C'est de vous faire connaître? C'est ça qui vous manque aujourd'hui chez Colette?
Oui, en effet. Alors aujourd'hui, il faut vraiment sensibiliser massivement à cette pratique parce qu'elle est encore vraiment méconnue. Donc nous, on n'invente pas la cohabitation intergénérationnelle. Nous, ce qu'on invente, c'est vraiment l'interface en ligne qui va permettre de développer à grande échelle cette pratique. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Colette, c'est avant tout un service en ligne et on veut vraiment développer cette plateforme en ligne qui va permettre le matching de bons profils entre eux et nous aider à vraiment à développer en grande échelle.
Petite précision pour nos auditeurs qui sont tous là nous écouter par millions, ce n'est pour le moment qu'à Paris, en Ile-de-France. J'imagine que l'objectif c'est de se développer rapidement un peu partout.
Absolument, tout à fait. Le but c'est de prouver que le modèle peut vraiment se développer à Paris et ensuite on ira partout.
Eh bien c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Justine Renaudet, la cofondatrice de la start-up Colette, était notre invitée. Guillaume Demulier, le PDG de Roche-Bobois, vous restez avec nous.
Et puis si vous aussi vous avez un projet, si vous souhaitez être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Bah oui, déjà, Elisabeth, chaque jour, ça passe trop vite. Cette dernière partie, c'est demain au travail. Et nous sommes toujours pour cela avec notre patron du jour, Guillaume Demulier, le PDG de Roche Bobois et de Cure Center.
Et c'est le moment de parler de notre vie au travail avec vous, Fabrice Janin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général pour les opérations Europe de Smalley Europe. Votre entreprise fabrique des ressorts, des anneaux d'arrêt. Vous êtes spécialisé en ingénierie et vous travaillez avec des commerciaux. L'enjeu du moment, c'est le télétravail. Et donc, vous vous êtes posé la question de comment est-ce que vous allez pouvoir transformer vos commerciaux en e-commerciaux. Alors, comment vous faites ?
Eh bien, voilà, on a un produit qui est très technique et les commerciaux sont habitués à être en face à face avec des clients et une nouvelle règle s'est imposée à nous. Comment rester présent chez le client, occuper le terrain. Il a fallu faire tout en visioconférence entre le téléphone et les visites chez le client. C'est la visioconférence qui s'est imposée à nous. On a un produit technique, on fait des présentations et les difficultés qu'on rencontre, le premier blocage, c'est l'ingénieur commercial lui-même, la réticence de la caméra, l'acceptation de l'image de soi, mais on ne peut pas présenter les produits, on ne peut pas présenter d'échantillons, il n'y a pas d'échange autour des prototypes. Tout ça, ça fait quelques difficultés.
Alors, vous avez fait quoi ?
Voilà, donc on se fait accompagner par une société, la société Sandler, qui nous fait nos formations. Et les formateurs lèvent les blocages, familiarisent les commerciaux avec les nouvelles conditions de travail, le nouvel outil. Voilà, c'est de la formation, du coaching. Principalement, c'est la caméra. Des gens qui ont l'habitude d'être en face à face, ils se retrouvent face à une caméra, ils regardent la caméra, ils se regardent eux au lieu de regarder les clients. Donc Sandler les fait sortir de leur zone de confort, leur apprend à gérer le temps. Le message, une démonstration et
est-ce que tout change ? Est-ce que finalement il y a beaucoup de changements dans l'approche de leur métier ? Quand maintenant on est en visio pour tout ?
Alors, ce qui change, c'est l'environnement. Les habitudes que l'on a en face à face avec des techniciens, poser les choses sur la table, aujourd'hui on ne peut plus le faire. Et il faut gérer un autre environnement, on ne peut pas improviser. Il faut être structuré, il faut être préparé. C'est en ça que Sandler coach individuellement parce que les uns et les autres n'ont pas les mêmes réactions, les mêmes blocages. Donc c'est vraiment individualisé. Il y a une base générale, mais l'individualisation sur les problèmes qu'ils ont rencontrés précédemment et donc Sandler les fait travailler individuellement pour lever les blocages.
Le constat qui est intéressant, puisque télétravailler ne rime pas toujours avec facilité, c'est que ça demande plus de temps de travail car la préparation est aujourd'hui plus grande.
Ah oui, Sandler vous dira, si vous oubliez de vous préparer, préparez-vous à être oublié. Mais on est vraiment là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de préparation, alors il n'y a plus les déplacements. Il n'y a plus de déplacements, donc on gagne du temps. Mais quand on est, on ne peut pas juste décrocher son téléphone et faire une visite virtuelle sans s'être bien préparé avant et penser aux aléas, penser au timing. Et à la fin, il faut arriver à convaincre.
Guillaume Demulier, notre patron du jour, PDG de Roche-Beaubois, cette problématique de télétravail, de transformer ses commerciaux en e-commerciaux, c'est quelque chose... une problématique à laquelle vous êtes confronté, vous aussi ?
Mais c'est quelque chose qui existe. Nos vendeurs travaillent souvent à distance et de plus en plus à finaliser des affaires, des commandes via WhatsApp, via Zoom aujourd'hui. Ils parlent avec les clients, ils leur montrent des simulations 3D, etc. Et donc oui, bien sûr, c'est quelque chose qui se développe beaucoup chez nous.
Eh bien, merci à tout le monde. Merci à Fabrice Janin, directeur général pour les opérations Europe de Smalley. Merci également à Guillaume Demulier, le PDG de Roche-Beaubois, d'avoir été notre grand témoin. Fin de cette émission. On se retrouve demain 13h. On parle de quoi, Elisabeth, demain ?
Eh bien, on vous dira tout demain, des journées du patrimoine avec le Centre des musées nationaux.
À demain, très bonne journée.
Et dans un instant, Christophe Ondelat.